Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'actu tech en ce mercredi soir. Un grand merci d'être là. Je vous rappelle bien sûr qu'on est en direct chaque soir de 19h30 à 21h à la radio, à la télé, et qu'ensuite les replays, les podcasts sont disponibles. Une demi-heure de débrief supplémentaire puisque nous sommes à l'avant-dernière émission avant le break estival, et on se retrouvera le 24 août prochain. On aura l'occasion d'en reparler demain. Et pour cette dernière demi-heure, toujours Thomas Serval, Didier Sens, Augustin Seyer et Frédéric Simotel. Messieurs, nous allons jouer pour cette dernière demi-heure au jeu des coups de cœur et des coups de gueule. Voilà, on va faire ça ce soir, on fera ça aussi demain. Pour la dernière demi-heure, vous allez un petit peu nous raconter vos coups de cœur et coups de gueule chacun. Alors, vous êtes quatre, on a une demi-heure, il va falloir être quand même assez rapide. Didier, on va commencer par ton coup de cœur.
Il a déjà pris son coup de gueule.
Non, mais ton coup de gueule, ça sera tout à l'heure.
D'accord.
Mais là, donc, tu voulais nous parler du sursaut européen et français pour la souveraineté numérique.
Oui, parce que il a fallu malheureusement qu'il y ait un contexte géopolitique assez tendu avec nos amis américains pour qu'on se rende compte que on n'est rien. On nous supprime l'IA, il y a plus rien. On nous supprime le cloud, il y a plus rien. On a vu ce commissaire.
On nous supprime les puces, il n'y a plus rien.
Les puces. On a vu ce commissaire européen qui avait été privé de tous ses contacts avec des entreprises américaines, y compris ses comptes bancaires, son assurance, sa mutuelle, etc. Enfin bref. Donc, il a fallu ça, et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu s'en rendre compte avant, pour que les autorités françaises et européennes décident de trouver de nouvelles manières de nous libérer. Alors qu'est-ce que ça a donné? Alors pour l'instant c'est encore en projet, mais ce qui est intéressant c'est ce qui a été décidé notamment par le couple franco-allemand, notamment au sommet de Berlin, et d'accélérer les engagements dans la technologie et notamment le cloud souverain, les entreprises locales pour remplir des missions numériques, etc. Alors ça porte plus ou moins ses fruits. Nous, ce qu'on aimerait, je pense que tous les débriefeurs sont d'accord avec moi, c'est de voir se lever enfin une industrie tech à la hauteur des enjeux et de ce que représente la communauté européenne. Pour l'instant, on a des petites tâches comme ça de pépites locales. On a parlé de Mistral tout à l'heure, on peut parler d'OVH, on peut parler de Scaleway, de gens comme ça, qui méritent peut-être d'être un peu plus mis en valeur. Et pour discuter avec des chefs d'entreprise, moi je sais que ce qui leur manque, c'est clairement des commandes publiques, des encouragements financiers, etc., qui leur permettraient de passer un palier et d'avoir une offre qui vraiment serait capable de concurrencer celle de nos amis américains et de nos concurrents chinois.
Augustin, ton coup de cœur? Je crois que tu voulais nous parler de Station F.
Station F. En fait, Station F est Paris en tant que, on va dire, capitale européenne de l'IA. On aime critiquer la France avec ses charges sociales extrêmement lourdes, enfin son coût du travail extrêmement lourd. Et malgré ça, en fait, on arrive à s'imposer comme une place indispensable de l'IA, en tout cas dans le monde occidental. Donc on arrive à recruter des gens extrêmement bien payés en France. Et Station F fait partie de ces lieux où il y a de plus en plus de start-up.
Alors, malgré tout, ce que tu disais, c'est qu'il y a le boulet des charges et des taxes, c'est ça?
Ouais, c'est quand, bah non, oui, c'est que pour même salaire en France, enfin, oui, c'est juste qu'en fait, en France, tu sais, tu récupères 50% de ton super brut, et qu'en fait, est-ce que tu arrives à attirer les meilleurs en France malgré ce coût-là? Et la réponse est oui. Je relisais il y a deux ou trois jours un tweet d'une start-up, c'est Runway, je crois, Runway AI, ouais, qui ouvre deux bureaux en Europe. Généralement, quand ils ouvrent un bureau en Europe, ces gens-là, c'est à Londres. Le coût du travail.
Londres-Berlin.
Le coût du travail à Londres, il n'est que dalle. À Berlin, il est peut-être un peu plus élevé. Et là, ils ont pris Londres et Paris. Et en fait, je pense que Paris, en effet, fait la différence sur l'IA. Et cette concentration, en fait, va nous renforcer.
Il y a aussi un vivier d'ingénieurs qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays européens.
Aussi, non, bien sûr. La base, c'est les ingénieurs français ou formés en France. Ouais. Et en fait, ça se renforce avec, moi, je rencontre de plus en plus d'ingénieurs IA de l'étranger qui viennent en France. Ensuite, la vraie difficulté qu'on a, c'est que mine de rien, c'est des salaires à 100, 200, 300, 400, 500, etc. Et il y a un moment où ils viennent tellement chers, les méta, machin, ils les envoient aux États-Unis, en fait.
Et oui, c'est ça.
Et j'en vois malheureusement quelques-uns où tu te dis, mais c'est incroyable d'avoir ce gars-là en France. Il doit payer une tonne d'impôts, donc tant mieux. Il est à Paris, c'est cool, ça permet d'attirer des gens autour de lui. Et il y a un moment méta où il fait calcul, il fait bon, on veut le payer des salaires mirobolants à la 500, mais je suis désolé, on se bat sur des... Enfin, la compétition aux États-Unis, c'est des salaires à 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais tu te bases sur un salaire 500, en France, ça te coûte 1 million. Aux États-Unis, le salaire 500, ça te coûte, je sais pas, ça coûte 550, quoi. Enfin, j'exagère, je tire le trait parce qu'en fait.
Oui, enfin, t'as pas de sécu, t'as pas. Enfin, bref,
on peut. Ouais, enfin, la sécu là-bas, c'est pas. Bon, on va pas.
Souvent, les entreprises payent des assurances santé.
Oui, mais c'est pas très. C'est 600 balles par personne par mois. Hein.
Ouais, c'est pas énorme.
Voilà, donc sur des salaires 500, t'es vite gagnant aux États-Unis. En effet, en France, sur les plus petits salaires, t'es gagnant en France.
C'est assuré qu'ils vont lancer un nouveau programme spécial IA. Hein. Ils vont lancer là la rentrée. Un gros de sélection, de recrutement.
Non, mais t'as Paris, et en fait, la vraie capitale des startups à Paris, c'est Station F. Ils ont fait un travail remarquable, en fait.
Ça a ouvert en 2010. C'est l'un des trucs qu'on retiendra, de toute façon, du mandat d'Emmanuel Macron. Hein.
Bien sûr.
Une chose positive, ce sera bien celle-ci.
Et puis, c'est Station F, c'est Xavier Niel aussi.
Je suis mauvais langue sur le coût du travail, parce que. Mais bon, ça devrait pas être que pour les ingénieurs. Les ingénieurs, ils bénéficient beaucoup du CIR, qui permet de réduire le coût du travail. Mais même avec du CIR, t'es plus cher qu'un Allemand. Moi, j'aimerais bien que, même avec du CIR, t'es compétitif avec un Anglais, et qu'ils arrêtent d'ouvrir des bureaux à Londres, qu'ils les ouvrent uniquement à Paris.
Thomas, ton point de vue, parce que toi, t'es vraiment dans le truc, hein, tu es entrepreneur, tous ces sujets-là, tu les vis au quotidien. Donc, Station F déjà, ok?
Alors, Station F, moi j'adore comme pour y aller, et inversement, en tant qu'entrepreneur, je me méfie un peu de mettre ma boîte là-bas, pour une raison assez simple, c'est que dans la vie d'une start-up, il y a des hauts et des bas, et si tous tes concurrents sont à côté de toi, le jour où il y a un bas, ils te le piquent. Donc quelque part, on oublie toujours qu'une des choses qui fait la force de la France, c'est la fidélité des ingénieurs. On construit pas une IA en trois semaines, on construit une IA avec des années de R&D. Et donc, pour moi, sur ce sujet-là, je trouve que ces lieux sont importants parce qu'ils sont iconiques et qu'ils réunissent la masse critique, qui font venir les gens. Après, en tant qu'entrepreneur, moi, j'aime bien garder mes ingénieurs.
C'est-à-dire que tu as peur que quelqu'un, le voisin de Station F, te pique tes ingénieurs?
Ben, bien sûr, c'est ça. Parce que je fais pareil. Je me promène chez Station F, je vois un mec qui s'ennuie à la machine.
Ouais, mais si tu es sûr de ton produit, si tu payes bien tes ingénieurs.
Tous les jours, tu vois, par exemple, on avait un bel appel d'offres pour Enedis. On l'a perdu, alors que tu parlais de trucs, de la commande publique. On a dû probablement le perdre au bénéfice d'une grosse boîte. Alors qu'on avait tout fait le travail de R&D. On est dégoûté. Voilà. Mon équipe technique aujourd'hui, alors que ça fait 2 ans qu'on travaille avec ce compte et tout, elle est dégoûtée. Voilà. Si demain elle croise un entrepreneur de Hardware AI qui vient de faire sa levée de 20 millions, eh ben.
Ouais, mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, si elle a envie de partir, elle partira quoi qu'il arrive, qu'elle soit Station F ou ailleurs, non?
Non, mais la raison, tu peux pas créer de culture d'entreprise. Station F, c'est génial pour lancer des boîtes.
Oui, après,
c'est
très tu restes pas.
De créer voilà, cette culture d'entreprise, parce qu'en fait, c'est un énorme open space. Mm. Mais bon, c'est un peu. Station F, le problème, c'est que si les boîtes commencent à se développer en Station F, il n'y a plus de place pour la.
Mais non, mais c'est pour ça que c'est très utile pour commencer, c'est très utile pour rencontrer. Oui. C'est exactement ça. Et inversement, il faut créer des entreprises autour, mais pas dedans.
Le modèle est fait comme ça. Hein.
Non, mais.
Le but, c'est pas de rester à Station
F. Non, c'est vraiment. Non,
mais c'est pour ça que je voulais juste nuancer par rapport à. C'est le lieu de la naissance ou la favorisation de la naissance pour atteindre la taille critique sur les technologies.
Et c'est bien qu'on ait ça en France.
À San Francisco, il n'y a pas ça. Hein.
Non, il n'y a pas ça.
Ça n'existe pas.
Ah non, ça n'existe pas. Donc, on parle de choses différentes, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que quand tu arrives à Station F,
beaucoup
ont essayé
de copier. Hein. À Londres, ils essaient de copier, tu vois, mais ils n'arrivent pas à trouver ce.
Et c'était une magnifique opération immobilière. En plus, il faut voir que Xavier Niel est un génie.
Station F, hein,
encore une fois, c'est la Halle Fresinet, c'est ça?
Oui, la Halle Fresinet.
Et même tout autour.
C'est une ancienne gare magnifique.
Il a fait un travail.
Et
là, il faut quand même dire que pour secouer l'écosystème, Xavier Niel a fait un travail les pouvoirs publics
bien sûr.
Ont soutenu, mais dont ils n'ont pas été à l'initiative.
Non,
et ça, je pense que c'est une des choses de la France qui réussit, c'est qu'on voit aussi qu'on est dans l'art du give back, et que maintenant il y a des générations d'entrepreneurs qui ont réussi, et qui animent ces projets, comme la French Tech a été fondée par des entrepreneurs initialement, et c'est ça qui fait quand même qu'on est encore sur le jeu mondial, il ne faut pas attendre de l'État. Exactement.
Et puis, bon, c'est l'un des projets importants de Xavier Niel, mais il y en a tellement d'autres. L'école 42, Hectare, notamment, pour l'agriculture et la tech. Enfin, et j'en passe, évidemment. Et tous les investissements qu'il fait dans l'immobilier start-up. C'est incroyable. Ok, alors, le coup de cœur maintenant de Frédéric Simotel. Tu voulais nous parler de la RAM.
Eh bien moi c'est ça, c'est mon coup de cœur,
t'es devenu amoureux de la RAM.
La reconnaissance.
Il essaie de charmer la RAM pour la payer moins cher.
C'est la reconnaissance tardive de la RAM. Voilà, on en a parlé. Alors quand on a tous, enfin pour ceux qui en démarrent un peu dans ce métier d'ingénieur, on était tous à chercher le processeur c'était bien, mais chercher de la RAM c'était je rappelle, voilà, il y a prescription aujourd'hui. Moi la nuit, là où je bossais, on allait piquer on démontait les PC des assistantes, tout ça, on leur piquait de la RAM pour avoir davantage stockage de RAM pour développer. Et je trouve qu'aujourd'hui, donc, elle a toujours été
ça,
là.
Ça, c'est pas beau, hein, Fred, hein, franchement.
Discrète et pourtant essentielle. Et je trouve que.
Ta carrière risque de s'arrêter d'un coup, d'un seul.
À travers. S'il y a des assistantes qui, à 30 ans, se disent, je comprends pas, mon PC, il rame.
Ouais.
C'est parce que derrière, nous, on avait des trucs.
C'est Frédéric Simotel, madame.
9 gigas de RAM, enfin, on avait tout.
Même moins, 512K.
Ouais. Mais bref. Mais c'était un clin d'œil parce que cette RAM dont on parlait comme ça, voilà, c'était une ligne dans des descriptions techniques. En quelques mois, c'est devenu un enjeu stratégique.
Bien sûr.
C'est devenu un enjeu. On connaît qui fait des RAM. SKNX, Samsung, Micron. On nous aurait demandé ça. Alors, si, peut-être nous, parce qu'on suit un peu le secteur, mais tu demandes à n'importe qui aujourd'hui dans cet univers, ils connaissent ces acteurs. Et je trouve que, quand même, c'est assez drôle de voir
cette
technologie.
Matin.
Et alors, derrière, je pense que cette technologie, elle remet aussi un peu au goût du jour les ingénieurs techniques. C'est-à-dire les ingénieurs qui travaillent sur le hardware, sur les OS, sur les couches, toutes les couches basses de tout ça. Allez, ça remet un peu de...
Aujourd'hui, c'est l'enfer sur Terre pour les entrepreneurs.
Eh ben, il est temps d'optimiser les codes. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui ont profité.
Faut que la Commission européenne réglemente.
Voilà.
Mon coup de cœur,
c'était ça. Qu'on plafonne le prix de la RAM.
Exactement.
Mon coup de cœur, c'était ça. C'est que tout le monde aujourd'hui, quand il achète son PC, son machin, qu'il voit la petite ligne, tant de gigas de RAM et tout ça, ben, il a une petite pensée en se disant, tiens, je pensais que c'était un truc un peu anodin, mais que si tu l'enlèves, ton truc marche pas. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas.
Je veux quand même te faire un petit témoignage de ton truc que tu adores. Aujourd'hui, tu veux acheter de la RAM. Alors, la RAM, elle est partout. Et tu veux acheter de la RAM. Les gens, aujourd'hui, sont en telle pénurie qu'ils te disent, si tu me payes aujourd'hui, je te donne le droit d'en acheter au prix que je dirai demain.
On avait parlé l'autre jour.
Octave Clava, c'est le premier à m'avoir arrêté, mais il y a un an, il me dit oui, et aujourd'hui, quoi. Ah ben là, aujourd'hui, je suis en train de stocker de la RAM. En train de me dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend,
c'est mieux que le Bitcoin.
Et en fait, on a vite compris, lui, il avait anticipé tout ça et il a essayé de racheter un maximum. Il m'a dit, tu vas voir, il va y avoir une pénurie qui va arriver.
On l'a vu arriver, ça, il y a eu des signaux faibles.
Oui, parce qu'en fait, c'est arrivé parce que les acteurs ont organisé une pénurie depuis 3 ans parce qu'ils se faisaient trop tordre le bras et que la concurrence était mauvaise.
Mais notamment Apple, je crois.
C'est Apple qui avait fait ça. Résultat des courses, ce qu'ils n'avaient pas vu arriver, c'est l'explosion des demandes en GPU, ce qui fait qu'ils avaient réduit la production et après, ils pouvaient le vendre 4 fois plus cher avec le même produit. Donc en fait, on avait anticipé de faire stagner le prix de la RAM et la demande a explosé, donc ça fait exploser. Ça, on ne l'avait pas anticipé.
Ok. Donc ça, c'était le coup de cœur de Frédéric. Ton coup de cœur, Thomas, tiens. Tu vas nous parler de modèles open source français, je crois.
Alors, mon coup de cœur, c'est les moteurs de codage. C'est-à-dire les cloud code, etc. Il faut voir que depuis 25 ans, pour ceux qui ont été comme moi passionnés de code, à un moment donné, on s'est retrouvé face à un très bon développeur qui t'a quand même expliqué que tu n'étais pas aussi bon que tu pensais que tu l'étais quand tu étais adolescent, que tu avais vu War Games. Qui t'avait fait donner le mythe du développeur génial avec son modem et tout. Et donc moi, ça fait 25 ans que maintenant, j'embauche des ingénieurs bien meilleurs que moi, de plein de nationalités, que je paye cher en France. Et il y avait une immense frustration parce que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire dans ma tête, mais il fallait que je transcrive bien pour qu'il fasse ce que j'avais envie. Puis après, il y avait des problèmes techniques, ils ne pouvaient pas être réglés. Puis même, j'avais une idée d'un produit, les gens ne voulaient pas le faire. Donc même si je les paye, en fait, il y avait quand même une sorte de devoir.
Ouais, tu n'arrivais pas à les convaincre de faire
pas
ce
toujours,
que tu leur demandais de faire.
Et il faut voir que, par exemple, quand j'étais chez Google, si tu veux, c'est les développeurs qui décidaient ce qu'ils faisaient. Ils travaillaient sur ce qui les intéressait. Et ton projet marchait si les développeurs te suivaient.
C'est incroyable.
C'est le problème chez Apple, aujourd'hui.
Non, mais donc, là, quand tu redécouvres Cloud Code, Codex, et même mon produit BeConnect qu'on a fait pour faire
des développeurs. Et là, tu reprends le pouvoir, en fait.
Mais c'est mieux que ça. C'est-à-dire que en un mois, j'ai fait une app que j'ai pu montrer à Apple. Ils m'ont dit, on n'a jamais bien. Parce que c'est pas parce que je sais pas coder. Par contre, je sais ce que je veux. Et en fait, on se rend compte que effectivement, quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois tester et que tu as 20 ans d'expérience, ces produits, c'est incroyable.
Et là, l'IA est parfaite pour ça.
C'est mieux que bien. C'est-à-dire quelque part, tu te retrouves dans un nouveau paradis. Qui est dangereux parce qu'il est addictif et donc quelque part il faut faire attention pour que tu gardes une vie sociale. T'as un truc qui te dit que t'es un génie parce que en fait les IA en plus comme Claude,
oui, elles te caressent dans le sens du poil.
Donc tu veux plutôt que le mec qui râlait en face, tu veux, ça te rend quand même plus heureux de faire 2 heures de développeur en plus, etc. Tu obtiens en quelques heures un produit que tu peux tester sur ton iPhone. Alors qu'avant, si tu veux, moi, il me fallait... Ce que j'ai fait là en un mois, un produit qu'on va lancer dans un mois, ça me prenait 2 ans et 2 millions.
Si tu veux. Et super documenté, en plus, quand il te rend le code.
Et je veux faire un truc de mieux, parce que j'ai entendu une voix, hop.
Alors, mais c'est quoi son truc? Tu vas nous sortir quoi dans un mois?
En avant-première à la rentrée. Et donc,
non, mais juste une petite, un petit indice. Un tout petit indice.
Des lunettes connectées. Voilà.
Mais en tout cas, mon coup de cœur, c'est ce truc-là. Et nous, on en a fait un produit avec BeConnect qui permet de... T'as une idée, tu fabriques l'objet. Donc en fait, il n'y a pas que pour le code. Mais ces outils rechangent complètement comment tu réfléchis à construire un produit, redonnent du pouvoir à ceux qui savent ce qu'ils veulent... redonne du pouvoir à ceux qui savent bien les exprimer, redonne finalement du pouvoir finalement au consommateur qui devient acteur et qui peut tout de suite voir son feedback intégré, et effectivement, rend les développeurs experts essentiels, parce qu'à un moment donné, tu parlais d'optimisation du code, ce que tu produis marche, mais ne marche pas très bien. Donc, quelque part, il faut après diviser par 100 le nombre de lignes de code pour le rendre efficace et moins cher, mais ça te donne un pouvoir de créateur. C'est vraiment la même expérience qu'il y a pu avoir avec les gens qui faisaient de l'impression 3D pour fabriquer des objets. Il faut savoir que, je sais pas si vous vous souvenez cette époque, mais massivement.
Mais est-ce que demain, le risque, c'est finalement que on te squeeze aussi à toi? C'est-à-dire que demain, moi,
c'est pour ça qu'il y a
je sais pas, j'ai envie de créer une appli.
C'est pour ça que les SaaS descendent. C'est aujourd'hui
est-ce que finalement, on va pas tous être créateurs d'applications demain?
Oui, mais après, attention, ça dépend ce que tu fais comme application.
Ou logiciel.
T'as quand même toute la partie gouvernance de données, t'as tous les liens avec les API et tout
pour
ça.
Pour les entreprises. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention.
En entreprise. Pour toi tout seul, oui. Mais en entreprise, t'as quand même toute la partie gouvernance de données, t'as toute la partie.
Ah non, je te parle pas d'entreprise, je te parle pour nous particuliers, tu vois.
Pour toi, oui.
Ah, mais toi, tu vas développer tes propres agents. Et le pire, c'est que, et nous, on voit avec les dirigeants d'entreprise, on accompagne beaucoup des dirigeants d'entreprise pour faire venir de l'IA. La seule manière d'apprendre vraiment, c'est d'essayer, et tu vas te rendre compte que tout ce que tu pensais pas capable d'être pas capable de faire, tu le fais. Et c'est un effet incroyable. C'est d'ailleurs le succès de tous ces trucs-là. C'est incroyable.
Et on en est qu'au tout début. Exactement. Tout ça. C'est
donc
ça
tu feras des films, tu feras tout ce que tu pouvais pas faire, parce qu'il fallait plein de gens. Et si on veut vraiment rentrer au cœur de pourquoi il y a cette dynamique autour de l'IA, c'est l'empowerment que ça donne aux gens qui ont envie de faire des choses, qui est un truc très entrepreneurial, et c'est absolument magique.
Et qu'est-ce qu'ils deviennent, tes développeurs?
Eh ben, il y a deux catégories. Il y a ceux qui embrasse ce truc-là et parce que là on parle donc tu es en train d'expliquer qu'il y a une différence entre faire un produit pour un particulier et faire un produit industriel. Oui. Mes développeurs, ils sont concentrés sur fabriquer des produits industriels, c'est-à-dire la sécurité, l'optimisation du code, la scalabilité, et il faut pas que de mon témoignage, de mon coup de cœur, on voit l'idée qui est fausse, qui donne l'impression qu'on peut refaire un logiciel de dimension entreprise avec juste un ingénieur fou. Par contre, ce pourquoi je mets mes ingénieurs, c'est tout ce qui va passer de l'idée à l'industrialisation. Et ça, ça va être le nouveau métier des développeurs professionnels.
Allez, coup de cœur. Maintenant, les coups de gueule de chacun. Et alors, il y a quand même un coup de gueule collégial, sauf Thomas, Didier, Augustin et Fred, et on va commencer par toi, Didier. Tu voulais parler justement de tout ce qui touche à la cybersécurité. Et cette première partie de 2026 en termes de sécurité, c'est une catastrophe.
Non, mais c'est un cauchemar. Je veux dire, entre les banques, les opérateurs téléphoniques, les hôpitaux, même les institutions privées qui se font piquer les données, c'est un vrai cauchemar. Donc, il y a un vrai problème.
Ça, c'est pas nouveau. Enfin, ça fait des années qu'on évoque ça dans Tech & Co avec Fred.
Eh ben, justement, il est peut-être temps maintenant de dire, vous devez prendre, vous, entreprise à qui on confie nos données, des engagements, pour éviter cette espèce de tendance à, on sait même pas si c'est de l'incompétence, de l'indifférence, de l'insouciance. On sait pas. Mais en tout cas, il n'y a rien qui justifie qu'une entreprise à qui on confie nos données ne prenne pas toutes les mesures nécessaires pour les protéger. C'est comme si je donnais mon argent à la banque et que la banque dit non, il n'y a plus rien dans votre coffre puisqu'on a laissé les fenêtres ouvertes et les gens peuvent rentrer comme... Non, on ne peut plus faire ça maintenant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Non seulement nos données sont donc exposées, revendues, utilisé à notre détriment, on le voit avec toutes les campagnes de phishing qu'on a, Monsieur Sens, aujourd'hui votre crédit machin, ou Monsieur Sens, votre abonnement Netflix, cliquez ici, etc. Tout est personnalisé et fait, ou voici votre IBAN, cliquez ici, etc. Bon, il y a des gens qui se font avoir. Et ça, c'est pas normal, parce que, encore une fois, il y a des entreprises à qui on fait confiance. On est obligé de leur donner nos données pour s'inscrire à leur service. En revanche, et en retour, on s'attend évidemment à ce que ces données soient protégées. Et maintenant, je pense que ces entreprises ne font pas leur boulot et qu'il faut, là aussi, légiférer.
Didier, j'ai une idée.
Oui.
Et je pense que ça passe pas par la législation. Ma mère, moi, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un coup de gueule. Ma mère m'appelle, me dit, ah, j'ai Dashlane qui me dit que mes données ont été compromises. Et je regarde, elle a en effet son adresse, son numéro de téléphone, son prénom et nom. Et je regarde, je vois colisprivé.com. Mmh. Apparemment, qui a perdu en 3 millions à 11 millions de données comme ça. Mmh. Et je regarde l'email, j'étais, mais l'email, il n'y a pas un, on est désolé. C'est pas de notre faute, en fait, l'email. Et je pense que, c'est en effet, c'est de leur faute. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un manque. Ils ne disent pas, c'est de notre faute, on aurait dû. C'est sûr que l'IA accélère la cybersécurité, les attaques de cybersécurité, mais c'est de leur faute.
Et les rend
en fait.
De plus en plus réalistes en plus, c'est ça le souci.
Et tu sais ce que je suis allé voir
des mails,
L'email, j'étais atterré. Pas un désolé, pas un on vous dédouane, on vous
Ah, mais le courrier de Bouygues, c'était pareil. Voilà. C'est des données en fuitée, ne vous inquiétez pas.
Là, il n'y avait même pas. Oui. Et tu sais, je regarde, j'ai dit, mais il n'y a pas une attaque, il n'y a pas des... Et alors, je ne pense pas que ça passe à la législation, je pense que ça passe par les gens qui se sont fait hacker leurs données, qui se mettent ensemble, qui attaquent et qui récupèrent de l'argent. C'est, y a, en fait,
à l'américaine.
Ouais, à l'américaine, mais si...
Encore une fois,
rien.
Tu fais bosser des gens qui n'y sont pour rien, tu vois, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie.
Mais oui, mais comment tu veux leur faire réagir? Tu crois vraiment qu'une loi va leur dire, bon, maman, il faut que vous équipiez? Oui, mais il y a déjà des lois, en fait. Moi, je suis un fonds, une société de gestion, je suis soumis à une législation qui s'appelle DORA. On s'est mis sur DORA, mais en fait, DORA, c'est déjà obsolète. Ouais. Tu vois, ça nous encadre tout notre... comment on se login, comment on se connecte, etc. Mais aujourd'hui, les nouvelles attaques, c'est même pas ça. Les attaques, c'est ça va passer par des pipelines hackés. Enfin, t'as beau légiférer, l'IA rend aujourd'hui tout ce qui est législation obsolète. Donc moi, je pense que ça passe par, eh ben, tu sais quoi, je me fais hacker... Comme la Commission européenne qui attaque Apple, je prends ton chiffre d'affaires si tu te fais hacker. En vrai, je suis désolé, tu perds. Colis privé, excuse-moi, je vais via. Je veux pas, j'ai rien contre colis privé, mais Bouygues, colis privé, même l'État avec la NTS, il n'y a pas on est désolé. Tu as des classes actions.
Surtout la NTS, c'était pas très compliqué. Hein.
Où tu te dis, ouais. Tu te dis, à chaque fois que je perds une info, c'est 200, 300 000 euros, je te promets qu'ils vont investir dans la cybersécurité.
Ouais.
Et donc, mon coup de gueule, c'est le même que le tien. Mais qu'en effet, il faut qu'elle se bouge. Et en fait, il n'y a que le financier qui va bouger. Pas des GAFAM, on est d'accord, parce que 500 millions, c'est un jour ou deux jours de profit. Mais des boîtes en France, si tu commences à leur dire, la CNIL commence à dire, OK, on attaque, c'est 10% du chiffre d'affaires, elles se bougent tous.
Mmh. Et après, la difficulté pour connaître bien les entreprises, c'est toute leur histoire de gouvernance des données. C'est des données, elles en ont tous les sens. Et pour connaître bien ce métier des CISO, des RSSI, ils ont un gros souci là-dessus.
Qu'ils embauchent un spécialiste, enfin.
Ils ont des spécialistes.
Vous comprenez, c'est compliqué. On a eu le Covid, et puis après, on n'a pas eu le temps.
Ils n'assument pas trop leurs responsabilités.
Oui, ils disent même pas.
Ils n'assument jamais.
Je vais vous en présenter quelques-uns. Ouais. Vous allez voir sous quel stress ils en permanence.
Ah mais c'est sûr que l'IA aujourd'hui doit les mettre sous l'enfer.
T'as un gars comme Patrick Pouyanné, tu lui demandes c'est quoi votre priorité aujourd'hui, il te dit pas c'est trouver du pétrole, c'est m'en sortir avec
la cyber. Machin.
Il dit c'est la cyber.
Non, gagner de l'argent d'abord.
Non. Payer mes. Je peux dire qu'aujourd'hui c'est
mes actionnaires.
Non, c'est.
Les deux sont intimement liés, cela dit.
Et alors moi mon coup de gueule qui vient rajouter un peu sur tout ça, c'est je m'en suis rendu compte avec.
Rapide Fred, parce que j'aimerais donner la parole à Thomas aussi.
De Mythos et Fable 5, c'est tous ceux qui ont développé, et j'en fais partie, pendant des années en langage C. Parce que toutes les conneries qu'on voit, toutes les failles qu'on a aujourd'hui,
c'est du C.
Pourquoi? Parce que les développeurs, on a laissé libre cours à leur créativité en langage C. Mais justement, on leur a laissé, vous allez gérer finement la mémoire, mais en fait, ils l'ont géré finement, mais sans protection automatique. Donc aujourd'hui, t'as plein de, les pointeurs, ça va n'importe où, machin. Et tous les programmes en C, eh bien, ils laissent tous des choses parce qu'on n'a pas été, justement, dans le développé par design by
security
by design et voilà, donc c'était mon coup de gueule de dire quand vous programmez en C maintenant faites attention à ça parce que bon c'est pour ça que les autres programmes en Rust et tout ça on a changé de logiciel depuis.
Merci Fred. Le coup de gueule de Thomas. On va parler de la langue de l'IA et notamment l'IA version française.
Voilà, donc en fait on rappelle à chaque fois qu'on est un grand pays de l'IA, qu'on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour être en plein dedans, mais alors vraiment profondément dedans, il y a deux langues qui sont extrêmement bonnes pour faire de l'IA. le chinois et l'anglais. Et il y a un décrochage absolu et total de la capacité à s'exprimer dans... Alors, je ne te parle même pas des langues rares qui sont en train de devenir des citoyens de troisième zone.
Et en Afrique, qui n'existe même pas. Même.
Donc, quelque part, aujourd'hui, on a Mistral, qui, et là, je trouve ça scandaleux, a un modèle très bien, qui s'appelle Voxtrail, mais en fait, on ne peut pas l'intégrer dans les produits... Il y a une licence commerciale. Donc, en fait, on avait dit, on va faire résister la France par l'open source, par la mise à disposition de trucs. L'État dépense des milliards dans un certain nombre de choses, et le français décroche, mais dans tous les benchmarks, en génération, en capacité à s'exprimer, en culture, enfin, bref, grosso modo, on a, pour de raisons évidentes, c'est les Chinois qui ont investi plus dans leurs IA, les Américains, et on a complètement arrêté de défendre le français dans toutes ces zones, l'expression orale, le français parlé. Aujourd'hui, trouve des voix open source en français de qualité. T'y arrives pas. T'as du québécois, tu vois. Et j'ai vraiment fait le travail. Donc, c'est un témoignage. Et je suis bouleversé de ça parce que c'est contraire à tout ce que je pensais qui avait été fait. Et donc là, je sais même pas où on est. D'un côté, on a l'INA, on a plein d'assets. Il faut gagner cette bataille de la culture et du français.
Entièrement
et il
d'accord.
faut absolument.
Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entraîner ces IA à la langue française, c'est ça?
Il faut que les IA soient entraînées et qu'il y ait des bons entraînements avec des poids ouverts basés sur le français. Aujourd'hui, il y a des bonnes IA avec des poids fermés sur le français. Donc, il faut payer pour parler français. C'est plus cher, si tu veux, d'utiliser une bonne IA en français qu'une bonne IA en anglais ou en chinois. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre.
Mais est-ce que toutes les langues européennes, par exemple l'italien, l'allemand, c'est pire encore?
Alors, en fait, plus la langue est donc allemand, français, etc., c'est des langues de deuxième zone, mais il y a quand même du contenu. Et plus la langue est rare, plus c'est la cata.
Il y a un très bon article dans The Conversation ce matin là-dessus, justement, où il parle notamment du problème de l'entraînement, de la qualité des ce que tu disais exactement, hein, des cursus, des corpus d'entraînement, et notamment le fait que. En génération de texte, la langue s'appauvrissait considérablement parce que le schéma statistique de l'IA fait qu'on utilise les mots les plus répandus et que donc ça supprime tout ce qui est nuance, choix des mots, tout ce qui fait la richesse en fait de la langue.
Et aujourd'hui, pour illustrer ce que tu viens de dire, je suis obligé de le meilleur en français, en text-to-speech, c'est Quen, Alibaba, qui a fait 100 langues. Je suis obligé de la dessiniser en enlevant les caractères chinois qui traînent encore dans le code et j'ai des expressions qui doivent être corrects en chinois.
Mais qui ne veulent rien dire en France.
Mais qui ne veulent rien dire en France. Et donc, il y a Qtie qui a essayé de faire des choses, mais je n'ai rien de concret open source, open weight. Il y a Mistral qui devrait être à fond dans ça.
Et bien sûr.
Et qui n'y est pas.
Pourtant, ils ont communiqué là-dessus, Fred, d'ailleurs.
Ils ont communiqué là-dessus, mais surtout, je rappelle que...
Parce que c'est eux qui francisent, en fait, Amazon Alexa Plus. Je ne sais pas si vous avez...
Non, mais ils ont des trucs, mais ils ont des modèles...
C'est
des modèles privés.
C'est des modèles où maintenant, en fait, les gens ne comprennent pas la différence entre les modèles, et c'est plus open source.
Et Emmanuel Macron l'avait mis en avant à l'époque, quand il avait fait son discours au forum, il avait parlé du biais des langues, c'était un des points forts.
N'arrête là, merci beaucoup à tous les quatre. Merci Frédéric Simotel, Augustin Seyer, Thomas Serval, Didier Sens pour cette heure et demie de débrief qui a été
intense,
passionnante, intense, un peu musclée, mais on aime bien. Merci beaucoup à tous les quatre, belle été si on ne vous revoit pas d'ici là. Et on sera là demain pour la dernière de la saison, Fred.
Et
avec Enco, la quotidienne.
Avec encore des coups de gueule.
Avec encore, évidemment, d'autres débriefeurs qui seront là. Très belle soirée et à demain, bien sûr, 19h30.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.